Chapitre 51. Direction zonale de la police judiciaire. Les abîmes. 8 heures. Valérie a fait installer 3 chaises et une table sur la terrasse de la DZPJ. À 8 heures du matin, le ring est encore à l'ombre. Température idéale. Tranquillité assurée. Uniquement perturbée par le décollage des avions de l'aéroport Paul Caraïbe et des hélicos de l'hôpital du Rézé. Qu'on ne nous dérange sous aucun prétexte, ordonne le commandant à la 30aine de policiers qui s'affairent dans les bureaux, avant de se tourner vers ses 2 adjoints. On arrête de foncer tête baissée, on se pose quelques minutes et on réfléchit. Jolène et Amiel approuvent, tête levée. Sur la terrasse, ils ont la bonne surprise de découvrir qu'en plus des 3 chaises, le brigadier Chevy Dijoux leur a laissé une assiette de viennoiserie, une cafetière fumante et une bouteille de jus de cerise pays. Jolène attrape un nouveau café, une brioche pomme cannelle et synthétise les dernières informations recueillies ce matin sur le terrain. Nils Auvray, le garçon assassiné dans son duvet, était un jeune pêcheur de Pointe-Noire. Guadeloupéen, pas de casier, aucun militantisme particulier, un gosse sans histoire qui venait juste s'amuser. Tout laisse penser qu'il a été tué par erreur. Plusieurs témoins ont confirmé qu'il avait installé son matelas à l'emplacement précis où Shaïma Sadji avait posé le sien quelques heures auparavant, avant qu'une bande bruyante et entreprenante de jeunes de Sainte-Rose se déploie autour de la tente F, et que sans doute Shaïma décide de s'éloigner de quelques dizaines de mètres. Ni Valérie ni Amiel n'ont touché au petit déjeuner. Jolène dévore pour 3. Elle vide un verre de cerise avant de croquer un nouveau beignet.
La suite va pas te faire plaisir, patron. Shaïma a acheté sa robe bleue, celle au motif de papillon, dans une des boutiques du bord de la plage hier. La vendeuse s'est présentée spontanément pour témoigner. Elle se souvenait bien d'elle et elle est formelle. Shaïma a hésité entre plusieurs coloris et plusieurs modèles. Son choix, celle au papillon bleu, s'est fait totalement au hasard. Un achat impulsif que personne n'aurait pu prévoir. Vous comprenez ce que ça signifie, les garçons ?
Amiel se charge de tirer les conclusions.
Que personne avant qu'elle achète cette robe ne pouvait savoir qu'elle la porterait. Et puisqu'Évariste Pigeon a été placé à l'isolement toute la journée, il est impossible que le harponneur, même s'il a traqué Shaïma depuis hier matin, ait pu lui communiquer cette information. Pas davantage qu'il ne pouvait savoir qu'elle poserait son matelas à côté d'une tente de secours.
Il va falloir finir par croire l'œil noir, Valéric. Le commandant se laisse tomber sur une chaise. Et même si j'y croyais, vous pensez que le procureur de la République, le juge Coury ou Valentin Le Cocu vont se contenter de cette explication ? Tout est sous contrôle, monsieur le préfet. On travaille avec un médium. On n'est pas encore synchrone, mais on va s'améliorer. On envisage de proposer à notre quimboiseur un CDD.
Jolène offre à son chef un sourire rouge cerise désabusé.
D'accord, patron. Mais ça nous laisse quoi comme autre solution ? L'avocate, c'est Lani Le Cram ? Elle est clean ?
Ouais, confirme Valéric. Tous ses collègues de GIS TIS 971 me l'ont confirmé. Clean et chiante. De toutes les façons, elle s'est jamais retrouvée seule avec son grand-père, à l'exception de son premier rendez-vous au parloir, avant-hier, qui a été filmé et enregistré. Chevy et Simon ont repassé 10 fois les bandes, ont tout contrôlé, chaque battement de paupières, sans trouver quoi que ce soit de suspect. Et même s'il fonctionnait par télépathie. Pourquoi une avocate aussi ambitieuse prendrait-elle le risque d'être complice d'une telle mascarade ?
Personne ne répond. Jolène a avalé le dernier beignet et n'a plus que ses ongles à ronger.
Et côté prison ? Poursuit-elle. La cellule d'Évariste est surnommée la chambre de verre. Quelqu'un a pu ouvrir le micro dans le poste de garde et communiquer avec lui ?
Le commandant dévisage son adjointe, longuement, avant d'exploser.
Nom de Dieu ! Évariste Pigeon est à l'isolement dans un centre pénitentiaire, sur ordre du juge, sous le contrôle du directeur de la prison et de fonctionnaires assermentés. On va pas commencer à imaginer des gardiens corrompus ou je sais pas quel délire complotiste.
Alors, conclut avec calme Amiel, il faut se rendre à l'évidence. Évariste voit vraiment la mort avant qu'elle frappe.
Oh non ! S'entête Valéric. Évariste se fout de notre gueule, même si j'ignore comment et pourquoi !
Il demeure un moment silencieux. Jolène a balayé les miettes de viennoiserie d'un revers de main et installé un ordinateur portable. La lieutenante Mireille Fontanelle
s'est une nouvelle fois révélée d'une efficacité impressionnante. Ils font défiler les éléments biographiques qu'elle a collectés sur le téléphone portable de Shaima Sadji, ses profils sur les réseaux sociaux et quelques coups de fil en métropole passés à ses proches. Shaima Sadji était étudiante en prépa infirmière, célibataire. Une fille volontaire, joyeuse, tombant un peu trop souvent amoureuse, mais se relevant après chaque histoire malheureuse, plus déterminée que jamais à chasser les doutes et profiter des nouvelles rencontres que la Providence sème sur sa route. Elle n'était jamais venue en Guadeloupe. Fontanelle et Formelle. Et Shaima Sadji n'avait aucun lien avec Jacob Santamaria et Audrey Colombel. L'informaticienne de la DZPJ, par contre, a relevé un fait étrange sur ses messages téléphoniques. Shaima avait sympathisé avec un certain Ruby sur un site de rencontre. Un Guadeloupéen. Ils se sont écrits pendant 3 mois. Puis Ruby a fini par inviter Shaima à le rejoindre sur son île. Il s'était donné rendez-vous plage de la Perle, à la technopartie. Et Ruby n'est jamais venu, conclut Jolaine. Même processus que pour Jacob et Audrey. Tout laisse penser que les victimes ont été choisies au hasard par le tueur, mais elles ont été attirées en Guadeloupe de la même façon. Shaima, par une rencontre avec un fantôme sur les réseaux sociaux, Amiel sort son téléphone portable, consulte furtivement ses messages, puis enchaîne. Audrey Colombel se fait piéger par une annonce publicitaire mensongère, lui promettant une réduction sur son séjour. Valérie s'empare de la souris et ouvre un message récent du brigadier Fiston. Et après vérification, l'agence immobilière Immob Hill, qui a convaincu Santa Maria que quelques hectares de la mangrove du grand cul-de-sac marin étaient à vendre, et bidon elle aussi. Amiel pose son portable sur la table. L'assassin de l'aube serait un surdoué en informatique ? À moins qu'il ne soit plusieurs, suggère Jolaine. Un tueur, un informaticien. Et qu'ils agissent depuis des années, ajoute Amiel. La maîtresse de Santa Maria, l'ex d'Audrey Colombel, tous morts de façon violente à l'aube. Valéric continue de pianoter sur l'ordinateur. Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agisse de 2 assassinats. J'ai demandé à Chevy d'enquêter sur ces 2 décès. Il a dû attendre que les archives judiciaires ouvrent à Cuba et en métropole. Il y a passé une partie de la nuit, mais les rapports de police confirment ce que nous savons déjà. Il ouvre 2 fichiers PDF dans une double fenêtre. Selon la police de La Havane, Janet Jiménez a été poignardée par un individu qui lui a volé son sac, ses bijoux et ses bombes de peinture. Individu qui n'a jamais été identifié ni retrouvé. Lit Jolaine. Et selon la gendarmerie de Nanterre et la police de Kigali, poursuit Valéric, Ludovic Rossi, le compagnon d'Audrey Colombel, a été victime d'un accident, suite à une prise de risque inconsidérée sur les hauteurs de la vallée de la Roussizi, après un violent orage ayant détrempé le rebord de la falaise. Il n'y avait personne d'autre qu'eux à 5 km à la ronde, pas même un gorille. La géolocalisation du portable d'Audrey Colombel au moment où Ludovic Rossi est tombé l'a innocenté. Sauf si elle n'avait pas emporté son portable avec elle. Nuance Jolaine. Amiel sourit. Pour quelle raison l'aurait-elle poussé? Il a peut-être tenté de la violer, ou ils se sont disputés. Ou elle l'a attiré volontairement au Rwanda pour... Valérie pose une main sur l'épaule de son adjointe. Je te rappelle qu'Audrey Colombel est une victime, pas une suspecte. Et que Janet Jiménez, comme Ludovic Rossi, a trouvé la mort à l'aube. Amiel regarde toujours l'écran. Rwanda, Cuba, Guadeloupe. Les assassins de l'aube auraient des complices sur tous les continents? À moins, continue de raisonner la capitaine, que l'explication soit beaucoup plus simple que ça. Valérie et Amiel la fixent intéressée. Pour les meurtres de Janet et de Jacob, la femme trahie possède un sacré mobile. L'argent. Un très bel héritage. Et un second tout aussi puissant. Elle clique sur une nouvelle pièce à conviction et fait apparaître sur l'écran la photographie de la carte d'Anatole Senyuvan. Vengeance.